Chapitre 2. Ce ne fut pas le directeur de l'enseignement qu'Hélène alla voir, ce fut le député Méraud, arrivé de Paris le matin même. Comme elle sortait de chez M. Malattiré, elle se trouva face à face avec le père Bourgeon qui se rendait au collège. « Je vois que vous faites des démarches, » dit le vieux professeur. « Vous avez raison, c'est en tourmentant les gens qu'on obtient d'eux quelque chose. Eh bien, « notre inspecteur vous a-t-il donné de l'espérance, au moins dans une certaine mesure, si j'ose m'exprimer ainsi ?» Il se mit à rire, enchanté de cette plaisanterie. Hélène raconta en quelques mots ce que M. Malattiré venait de lui expliquer. « Je ne veux ni vous blâmer ni vous approuver, mais puisque votre résolution paraît arrêtée, je vous engage à voir notre député que je viens de rencontrer au moment où il rentrait chez lui. Il peut... J'y vais. » dit Hélène sans en entendre davantage, et elle se hâta vers la courtine, d'une peur de ne pas trouver le député chez lui. Comment allait-il la recevoir? Terrible question qui lui serrait le cœur et qu'elle n'osait pas trop examiner. C'était un honnête homme que ce député, et ce qu'elle avait entendu dire de lui était fait pour inspirer confiance. Il avait abandonné sa position de magistrat par indépendance de caractère pour soutenir librement les droits de sa femme dans une belle fortune qui lui avait été volée. Il adorait sa femme à ce point, racontait-on, que tous les jours il déposait devant le portrait de son idole un petit bouquet qui était une pieuse offrande. Il était l'heureux père de 3 enfants charmants. Comment, pensant à cela, n'eût-elle pas eu bon espoir? Il est vrai que du comte Prêt-à-Boine aussi, on lui avait dit avant sa visite à la Rouvray, toutes sortes de choses bien faites pour inspirer confiance, et cependant... Lorsqu'on la fit entrer dans le salon du député, elle le trouva si bien rempli qu'elle aurait dû rester debout si un jeune homme n'avait pas quitté son siège pour le lui offrir. Il y avait là des gens de toutes les conditions venus pour rappeler à leur député celui à qui ils avaient donné leur voix, qu'ils devaient leur faire obtenir coûte que coûte ce qu'ils désiraient. Ils avaient voté pour lui, ils devaient solliciter pour eux, donnant, donnant. Des fonctionnaires qui venaient demander qu'on leur accordât enfin l'avancement qui leur était dû depuis longtemps, des veuves qui faisaient valoir leurs droits à des bourses pour leurs fils, des postulants à des débits de tabac, des aspirants à la Légion d'honneur, des maires qui venaient se plaindre de leurs conseillers municipaux, des conseillers municipaux qui venaient dénoncer leur maire, enfin tout ce monde qui croit qu'un député tient la clé des coffres de l'État et ne peut pas refuser de s'en servir pour ses électeurs. Elle était entrée dans le salon de Méraud à 2 heures. À 5 heures seulement, son tour arriva de passer dans le cabinet du député. Méraud l'accueillit froidement, ou plutôt avec la fatigue et l'ennui d'un homme qui se trouve en face d'une nouvelle corvée après en avoir déjà subi de toutes les sortes. Elle fut un moment déconcertée. Cependant, elle tâcha de ne pas se troubler et d'exposer à peu près très clairement sa demande. Lorsqu'elle expliqua qu'elle avait dû abandonner sa position à Courtomer, Méraud fronça le sourcil, mais sans manifester autrement la désapprobation que ce mouvement indiquait. Au contraire, il parut satisfait lorsqu'elle rapporta ce que M. Malattiré lui avait dit d'Ivranche la Folletière, en insistant sur son désir d'obtenir ce poste. Alors elle sentit qu'il la regardait, qu'il l'examinait. Mais ses regards ne la troublèrent point. Elle ne devinait pas ce que pensait le député, mais quoi qu'il pensât, elle était devant lui parfaitement à son aise. « Monsieur Malattiré vous a expliqué que c'était un pays coupé en deux. »« Parfaitement. Et cela ne vous effraie point. Il y a des moments dans la vie où l'on ne s'effraie de rien. »« Bien. Cependant, vous devinez, n'est-ce pas, les difficultés que rencontrera une institutrice dans ce pays ?»« Je le crois. Mais il me semble que, quelle qu'elle soit, on peut en triompher avec une volonté ferme et modérée. J'espère avoir cette volonté. »« Très bien. » Encore une question, je vous prie. Comment avez-vous été élevée? Je veux dire, l'avez-vous été en chrétienne ou... En chrétienne. En chrétienne pratiquante? Oui, monsieur. Cependant, monsieur, votre père n'était nullement clérical, n'est-ce pas? Pas du tout. Mais il me semble... Il vous semble qu'on peut être chrétien sans être clérical. C'est cela que vous voulez dire, n'est-ce pas?
Oui.
Et vous avez parfaitement raison. Rassurez-vous donc, je ne veux pas dire le contraire. Vivant près de monsieur votre père, qui a fait lui-même votre éducation, vous avez sans doute partagé ses idées. Oh, certes, en tout. Au moins, en tant qu'une fille de mon âge, pouvait partager les idées d'un homme tel que mon père, qui avait tout étudié, tout approfondi. Enfin, vous aviez au moins les mêmes sentiments. Comment en eût-il été autrement? J'aimais mon père autant que je le respectais et l'admirais. Elle s'arrêta, tremblante d'émotion, la gorge serrée, les yeux pleins de larmes, qui roulaient entre ses cils sans couler sur ses joues. À ce moment, trois enfants, deux petites filles et un petit garçon firent invasion dans le cabinet. Le garçon le premier, poussé par ses sœurs. « Eh bien, Arthur, qu'est-ce que c'est ?» demanda Méro d'un ton qui voulait être sévère, mais qui ne l'était pas. « C'est Emma et Jeanne !» dit le petit garçon. « Non, c'est toi !» s'écrièrent les deux petites filles. Pendant ce temps, les enfants s'étaient approchés de leur père et s'étaient emparés de lui. L'aînée des petites filles, Emma, l'avait pris par le cou et les deux autres s'étaient placés à sa droite et à sa gauche sans qu'il pût se défendre et empêcher Arthur de lui monter à califourchon sur le genou. « Vous comprenez maintenant, mademoiselle, » dit Méro en s'adressant à Hélène, « que je suis tout à vous, n'est-ce pas ? Je n'épargnerai donc rien pour vous faire obtenir ce poste d'Ivranche, et cela non seulement dans votre intérêt, mais encore dans celui de ce pays même. Au point où en sont arrivés les esprits dans ce village, calme et tranquille jusqu'en ces derniers temps. Ce qu'il faut chercher, c'est l'apaisement, non, la lutte. Par votre éducation, par vos idées, par vos principes, vous me paraissez précisément la personne qu'il faut pour amener cet apaisement. Catholique pratiquante, vous ne blesserez pas le parti clérical. De l'autre côté, votre éducation, votre famille, notre appui inspireront confiance au parti libéral. De sorte qu'avec cet esprit de fermeté et de modération dont vous parliez, vous pourrez amener la paix là où une autre développerait la lutte. Vous pouvez compter sur moi. Dois-je voir monsieur le directeur de l'enseignement et lui porter ses bonnes paroles? C'est inutile, je le verrai moi-même demain. Mais monsieur Malattiré est opposé à ma nomination. Méro se mit à sourire. Ce brave monsieur Malattiré, ou plutôt ce bon monsieur Malattiré, était opposé à cette nomination ce matin, mais ce soir, quand vous lui porterez la lettre que je vais vous remettre, il est probable qu'il voudra lui-même cette nomination. Et tout de suite, il se mit à écrire cette lettre sans déranger ses enfants et en passant son bras droit autour de la taille de son fils, qui ne voulait pas quitter le genou sur lequel il était perché. De sorte que, pour voir son papier, il devait se pencher à gauche et se rapprocher ainsi de sa fille Jeanne, qui profitait de cette position pour appliquer sur les joues de son papa des gros baisers de nourrice. Méro ne s'était pas trompé. En lisant la lettre de son député qui lui demandait le poste d'Ivranche la Folletière pour mademoiselle Hélène Marguerite, M. Malattiré déclara que c'était une excellente idée. « En toute conscience, dit-il, je trouve que c'est pour vous une affaire excellente. » Puis, se rappelant sans doute que quelques heures auparavant, il avait en toute conscience déclaré que ce serait une affaire détestable pour elle qu'il n'osait pas lui proposer, il éprouva le besoin de justifier cette contradiction. « N'allez pas croire que je suis en contradiction avec moi-même, s'écria-t-il, ce serait une grosse erreur. Je poursuis mon idée avec une logique inflexible. Ce matin, vous étiez seul. Ce soir, vous avez notre député pour vous. Alors les choses changent complètement de face. Vous êtes soutenu. On saura que vous êtes soutenu. Grande force pour vous. La lutte que je prévoyais ne s'engagera sans doute pas. Avec le caractère que je craignais au moins, car on regarde à deux fois avant d'attaquer quelqu'un qui peut se défendre. Et puis je vous l'ai dit, tous braves gens à Ivranche, le pays de la tranquillité et de la paix. Bien entendu, pour qui sait l'obtenir. Et vous me permettrez de vous dire que vous êtes cette personne. Aussi, mon conseil, si j'ose vous en donner un, est-il que vous ne négligez rien pour réussir. » Hélène écoutait, stupéfaite de cette volte-face. Comment, à quelques heures de distance, pouvait-on s'exprimer si différemment? Elle ne fut pas moins surprise quand elle l'entendit refaire les portraits des autorités d'Ivranche, le curé, le vicaire, le maire, qui, sous la lumière du soir, n'étaient plus du tout ce qu'ils avaient été éclairés par la lumière du matin. L'abbé Well n'était pas un entêté, mais cependant il avait la décision et l'indépendance qui conviennent à un honnête homme. Si l'abbé Périchard avait la main vigoureuse, c'était contre les méchants. Pour les bons, elle était de velours. Quant à M. Hamet, le maire, c'était un esprit distingué qui, exilé dans un village, avait accepté la mairie pour donner un emploi à son activité ainsi qu'à ses facultés remarquables. Et pendant qu'il disait juste le soir le contraire de ce qu'il avait dit le matin, Hélène se demandait si c'était là ce qu'on appelle la science de la vie. Alors, Malheur à elle, car bien certainement elle n'acquerrait jamais cette science. Enfin, il termina en lui disant qu'en ce monde on ne devait avoir qu'une règle, faire son devoir et aller droit son chemin. On n'avait rien à craindre quand on avait sa conscience pour soi. Puis, descendant des hauteurs de la philosophie et de la morale à des considérations pratiques, il l'engagea à aller à Ivranches pour voir le pays, mais elle n'en fit rien. Ce n'était pas le pays de son choix qu'elle prenait, c'était celui que la nécessité lui imposait. Alors il était bien inutile de se donner des regrets à l'avance. En somme, elle ne voulait que deux choses, vivre et rester une honnête fille. Ivranches le lui permettrait.